Vous écoutez IDFM, il est 21h.
Au commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes troublent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, non, juste un peu à droite, oui, voilà, là. Le chaos prend sa source dans Big Bang le samedi.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang
Station.
Nous sommes sur les
48 de la bande FM
en Ile-de-France, mais dorénavant le mercredi à 21h sur DFM et bien sûr toujours sur Facebook, Twitter, Instagram, Internet, Android, encore Spotify, Google Podcast, Radio Public, au choix, sur notre page, notre compte, notre site, notre appli, nos podcasts Big Bang
Station.
L'émission est rediffusée sur de nombreuses radios, une vingtaine, hein, je pense. Vous retrouverez la liste sur notre site internet Big Bang Station. Il n'y a pas toutes les radios, mais il y a les principales. Big Bang Station, c'est depuis 26 saisons un thème d'actualité auquel les chroniqueurs politiques, musique, cinéma, culture, sorties, high-tech, histoire, coup de cœur, jeux vidéo collent le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons de la journée internationale des droits des femmes. Petit Manu reviendra sur l'histoire de cette journée.
Didier, bah, il faut savoir parce que... Femmes, je vous aime. Il y a beaucoup de chanteurs qui ont chanté, mais est-ce qu'il faut savoir ce qu'elles ont droit? Eh bien, ça, c'est notre question. Mon rôle, de tout vous dire, de A à Z, ce qu'elles ont le droit. Et comme ça, vous aurez une petite idée, mon cher.
Non, plutôt les origines et buts de cette journée.
Oui, les origines et quoi?
Les buts.
Et les buts de cette journée.
Je sais même plus ce qu'il fait.
Non.
Qu'est-ce que j'ai écrit déjà?
Les origines et les buts de cette journée, c'est pas donné à savoir de savoir. Et ben justement... C'est pas toujours facile à savoir. Main de gant dans une main de velours. Mon rôle est de tout vous expliquer.
Ça rentre
de,
ça aussi, de... main de gant dans une main de velours.
Oui, c'est un proverbe.
D'accord.
Oui, je l'aurais pas dit. Main de gant dans une main de velours, de A à Z, je vais vous donner des bonnes explications.
D'ailleurs, pourquoi une seule journée, hein? Marie-Ève y répondra dans le courrier des...
Zoliqueurs. Oh là là, très passionné, hein.
Après l'état des lieux, nous parlerons des féminicides avec Ronan.
Tout à fait, Didier. Salut à toutes et à tous. Nous allons évoquer un sujet épineux qui a été mis sur le devant de la scène il y a quelques années, celui des violences faites aux femmes. Où en est-on aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure.
On abordera aussi l'accès à l'éducation avec William.
Effectivement, Didier, et salut tout le monde. On a longtemps pensé que les métiers de l'informatique sont des métiers d'hommes, mais dans ma chronique, nous allons savoir quelle est la place des femmes dans ce milieu.
William et Anaëlle, vous mettrez aussi en valeur certaines femmes.
Aussi, c'est l'occasion pour inaugurer une nouvelle chronique, les coups de cœur, avec pour la première, une lauréate du prix Nobel de la paix.
Ah bah oui, très important qu'elles ont fait des bonnes actions dans la vie, faut en tenir compte.
Côté culture, nous aurons le quiz musical de Kevin.
Eh oui.
Wynne's Daughter nous présentera une peintre dont les œuvres traitent de la féminité et de la difficulté à devenir femme. On continuera cette page culture au cinéma avec Ronan.
Eh bien oui, le film de Sarah Gavron et les courts-métrages de Johanna Bedeau en collaboration avec le MIPROF, Mission Interministérielle pour la Protection des Femmes contre les Violences et la Lutte contre la Traite des Êtres Humains seront au programme.
Et on terminera par de la littérature avec Denise Baudu.
Ah! Oh là, je me demande qu'est-ce qu'elle a fait, mais...
Qui c'est, Denise Baudu?
Ah ben, tu vas nous en parler, Didier, mais à mon avis...
Non, c'est pas moi qui vais vous en
parler. Non, C'est
Vincent
c'est,
qui va
ah,
nous en parler.
Ah, notre cher ami Vincent va nous en parler. Oh là là, faudra bien suivre.
Et l'émission est réalisée par...
Lio, il est beau, il est haut, il est beau. Ça
il
va,
a haut dans son eau.
Oui. Il boit de la bonne eau.
Oh là là, vous êtes trop fort. Quel poète.
Oh là là, complètement. Moi, c'est de la plus naturelle et spontanée.
Les hommes détiennent 50% de richesse de plus que les femmes dans le monde. Et oui, d'après le rapport Celle qui compte d'Oxfam, l'écart salarial entre les hommes et les femmes est de 19%. La lutte pour les droits des femmes et notamment pour la fin des inégalités par rapport aux hommes est l'objet de la Journée internationale des droits des femmes ou Journée internationale des femmes, selon l'appellation officielle de l'ONU.
Exactement.
Cette journée est issue de l'histoire des luttes féministes menées sur les continents européens et américains, comme va nous le rappeler Petit Manu.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, Monsieur Barack Obama, Donald Trump, Bilton. David Bouillet, Joe Cocker, Justine Téberlin, Lady Dada, Sakina, oui, Kendrick.
Vous pouvez plus diminuer son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les travaux, ça.
Tous les quoi?
Alors, mesdames et messieurs, nous sommes bien le mercredi 8 mars 2023 et effectivement, c'est bien la journée internationale des droits des femmes. Alors, je vais vous tenir au courant ce qui se passe. La journée internationale des droits des femmes, selon l'appellation officielle, l'ONU, est également appelée journée internationale des droits des femmes de certains pays ou régions comme la France, le Québec, est célébrée le 8 mars. Faut savoir, c'est une journée internationale mettant en valeur la lutte contre les droits des femmes, notamment pour la fin des inégalités par rapport aux hommes. Le 28 février 1909 est une journée nationale de la femme et célébrée aux États-Unis à l'appel du Parti socialiste d'Amérique, à la suite d'une proposition de la femme politique Clara Zetkin en août 1910. L'International socialiste des femmes célèbre le 19 mars 1911 la première journée internationale des femmes et revendique le droit de vote des femmes, le droit du travail et la fin des discriminations au travail. C'est-à-dire qu'avant, les femmes n'avaient pas le droit de voter et à partir de cette date, il faut savoir que les femmes ont eu le droit à voter. C'est la Russie soviétique qui est le premier pays à l'officialiser en 1921 en faisant un jour férié. Il faut savoir. C'est finalement en 1977 que les Nations Unies officiaient la journée inventant tous les pays de la planète à célébrer une journée en faveur des droits des femmes. Les Nations Unies définissent chaque année un thème différent. Et pour savoir, c'est une journée digitale, inclusive, innovation et technologie à l'égalité des sexes. Et c'est l'édition 2023. Ce qu'il faut savoir, je vous le dis, je vous tiens au courant, Didier et toute l'équipe de Big Bang Station. Aujourd'hui, la journée internationale des droits des femmes.
Merci petit Manu.
Avec grand plaisir.
Rappel.
Eh oui, comme ça vous saurez, parce que des fois on sait pas tout. Et grâce à l'émission de Didier, vous savez, c'est vraiment une très bonne émission. On en apprend des tas de choses, même en la créant, en la faisant, je vous le dis.
Et certaines s'interrogent sur cette journée dédiée aux femmes. Marie-Ève va répondre aux mails de Wonder Woman dans le courrier des...
Zolider. Yo, c'est Wonder Woman. Elle appelle. Oh là là, est-ce qu'elle aura son lasso? Je me pose bien la question.
Chaque semaine, découvrez le courrier des auditeurs.
Un premier mail de Leonardo D. Oh mais Leonardo, c'est trop mignon ça.
Retrouvez la minute timbrée de Marie-Ève.
Suite à votre dernière commande, profitez de -20% sur passagedudésir.com. Ah oui, ça c'est petit Manu qui m'avait demandé de commander un truc pour une amie.
Non. Marie-Ève.
Salut à tous les amis et bienvenue au courrier des auditeurs. Aujourd'hui, j'ai reçu un courrier de Wonder Woman qui m'écrit. Salut Marie-Ève, que penses-tu de la journée de la femme ? Eh ben d'abord Wonder Woman, je tiens à te préciser qu'aujourd'hui, c'est pas la journée de la femme, mais c'est la journée internationale des droits des femmes. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire ? Que les autres 364 jours, c'est la journée des droits des hommes ? C'est triste quand même de se dire qu'il faut une journée spéciale pour célébrer la femme, parce que malheureusement, elle n'a pas toujours été reconnue à sa juste valeur. Enfin, heureusement, pas partout. Il y a certaines régions qui ont bien compris le caractère indispensable de la femme, les sociétés matriarcales. L'endroit rêvé, là où les femmes sont reines. Eh bien, laissez-moi vous expliquer comment ça se passe dans ces régions paradisiaques. Une des plus grandes, c'est chez les Mozo en Chine. C'est dans le sud-ouest. Le sud-ouest de la Chine, pas le Pays Basque. Bref. Et ben là-bas, les hommes n'y font certes pas le ménage, ni la vaisselle, mais ce sont eux qui s'occupent des enfants. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que ce sont pas de leurs enfants qu'ils s'occupent, mais de ceux de leurs sœurs. Ne cherchez pas à comprendre, on appelle ça une société avant-coulaire. Avant-coulaire. Bref, A-V-U-N au début. J'ai jamais été très forte en prononciation. C'est-à-dire que ce sont les oncles maternels qui jouent le rôle de père. Pendant ce temps, les femmes s'occupent des tâches domestiques. Oui, ça, on a toujours du mal à s'en dépatouiller. Mais elles sont plus libres qu'ailleurs. elles ont officiellement le droit d'aller batifoler avec qui elles veulent. Et les hommes aussi d'ailleurs, donc ça tombe bien. Et ce sont elles qui possèdent l'argent du ménage. En cas de décès, l'héritage n'est transmis que par la femme. C'est aussi elle qui donne le nom de famille aux enfants. Mais oui, mais moi je vais prendre mon billet direct. Après, il y a aussi le peuple des Lao en Thaïlande. Chez eux sont les femmes, alors les cadettes pour être précises, qui gèrent tout ce qui touche au quotidien de la maison et finances comprises. Bah, si on y réfléchit, c'est comme chez nous en fait. Sauf que les Lao, eux, l'assument et l'arborent fièrement. Et pour finir, il y a les Juchitans de Zaragoza au Mexique. Je m'excuse pour la prononciation encore une fois. À l'origine, c'était les femmes de Juchitans qui tenaient les bourses du ménage. L'argent, hein. Pas les bourses, enfin, en bas, bref. Donc oui, à la base, ce sont elles qui géraient les finances en vendant sur les marchés les récoltes rapportées par leurs époux. Même si les rôles ont aujourd'hui un peu évolué, c'est toujours les femmes qui gèrent majoritairement bah, les finances, la maison, la famille, les temples et tout ce qui se passe dans la rue. Ce sont aussi les seules à parler le zapothèque. Ne me demandez pas comment on parle cette langue, mais en tout cas, c'est une langue qui est vieille de 2000 ans et ça, il n'y a que elles qui peuvent le dire. Les autres, quick, rien, nada, niet. Les hommes, eux, ils s'occupent plutôt des affaires politiques et de l'agriculture, mais ce que je retiendrai, c'est qu'ils sont dévoués à leurs femmes à tel point qu'ils vont habiter chez leur belle-mère. Ils vont habiter chez leur belle-mère, si c'est pas le plus beau cadeau et la plus belle preuve d'amour du monde, ça ? Ah, je les trouve inspirantes, ces sociétés. Alors, je dis pas qu'elles sont parfaites, ou que la mienne est pourrie d'ailleurs, mais j'ai juste envie de dire que je trouve ça intéressant de voir que finalement, une vision, des habitudes, ou encore une manière de penser, eh ben, elle est culturelle. Et pourquoi est-ce qu'on fêterait pas la femme tous les jours, tiens ? Mais l'homme aussi ! Et puis la biodiversité, la nature, l'eau, la terre, la mer... Et mon ex. Oui, pardon, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de mon ex. Oui, on peut fêter mon ex aussi. Parce que grâce à lui, j'ai compris que... En fait, j'avais besoin de liberté. J'avais besoin de liberté, c'est ça. Et puis comme ma grand-mère, la femme la plus incroyable de Nouvelle-Aquitaine, disait « Il faut savoir perdre pour ne pas se perdre ». Oui, ça n'a rien à voir avec la fin de ma chronique, enfin je veux dire, ça n'a aucun sens, mais j'avais besoin de le dire, parce qu'en tant que femme, j'ai compris plein de choses, et ça, je crois que c'est une des choses qui m'a le plus servi. Bon allez, profitez bien les filles, et à la semaine prochaine, et surtout, n'oubliez pas de m'écrire sur marielacinteevelapecheresse@gmail.com, j'attends vos mails, allez, bisous bisous.
Merci Marie-Ève.
Oh. Qu'elle est superbe, elle parle bien, elle pêche, notre Marie-Ève, hein. Elle passe pas inaperçue. Hein.
En 2021, 122 femmes sont mortes tuées par leurs compagnons selon l'Observatoire des violences faites aux femmes. En 2022, féminicide.fr compte 111 féminicides, dont 95 tués à leur domicile. Et à l'heure où nous enregistrons cette émission, déjà 27 féminicides depuis le début de l'année 2023. Depuis le mouvement MeToo, ce sujet de société a été mis au premier plan. Où en est-on exactement ? Voici l'analyse de Ronan.
Je disais c'est loin mais c'est beau. Hein. C'est loin mais c'est beau. Hein. C'est loin mais c'est beau.
Je vous demande de vous arrêter.
C'est la chronique politique de Ronan.
Au revoir.
Ah, les violences faites aux femmes, quel sujet d'actualité qui respire le bonheur et l'espoir. Aborder la journée du 8 mars sans parler de cette problématique, ce serait comme de parler de politique, sans parler de la corruption ou de l'influence des lobbies. On pourrait dire des jolies choses, pleines d'espoir, mais sans aborder les sujets de fond. Car contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le sujet des meurtres de femmes est bien un sujet toujours problématique dans la société française. Rappelons les statistiques. Selon l'INSEE, entre 2016 et 2020, il y aurait eu entre 900 et 1000 homicides par an en France. Et bien si j'en crois les statistiques fournies par l'Observatoire des violences faites aux femmes, 10% d'entre eux concerneraient le fait de femmes tuées par leur partenaire ou ex-partenaire. Ainsi, en 2021, 122 femmes sont mortes des coups de leur partenaire ou ex-partenaire. Pour aborder directement cet élément de contexte, 23 hommes sont morts tués par leur compagnie la même année. Et on apprend notamment dans ces statistiques que contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le schéma de la femme précédemment battue ne fonctionnerait pas toujours, puisque si j'en crois les statistiques dévoilées par l'Observatoire, seul un tiers des femmes, 35% pour être précis, tuées par leur partenaire ou ex-partenaire, subissaient des violences antérieures. Un chiffre néanmoins à nuancer quand on sait la difficulté pour les femmes d'aller déposer plainte ou pour la police d'accepter cette plainte et de commencer une enquête. En plus, si on veut évoquer le seul fait des violences, on pourrait évoquer un autre chiffre absolument dramatique. En 2019, toujours selon l'Observatoire, en moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui, au cours d'une année, sont victimes de violences physiques et ou sexuelles commises par leur conjoint est estimé à 213 000. Et parmi ces victimes, seuls 18%, soit une femme sur 5, disent avoir déposé plainte auprès des forces de l'ordre. Pour ce qui concerne le viol, les chiffres sont également effrayants. Puisque le nombre de victimes de viol ou de tentatives de viol est estimé à 94 000 femmes par an, dans 9 cas sur 10, l'auteur du viol est connu, et dans une fois sur deux des cas, c'est le fait du conjoint ou de l'ex-conjoint. Ici encore, la difficulté d'aller déposer plainte subsiste, puisque seulement 12% des victimes ont porté plainte. Ainsi, en 2016, l'enquête Violence et rapports de genre a permis de mesurer que 14,5% des femmes ont subi des violences sexuelles au cours de leur vie. Viol, tentative de viol, attouchement du sexe, des seins ou des fesses, baiser imposé par la force, pelotage. Très au-dessus du nombre de victimes masculines qui est estimé à 3,9%. Tout cela pour dire que le sujet n'est évidemment pas à traiter à la légère. Désolé pour le manque d'humour dans cette chronique. Le nombre de violences et de violences sexuelles subies par les femmes, notamment en comparaison avec celui subi par les hommes, démontre qu'il y a un problème général dans la société française. Le seul fait de la biologie et l'argument connu de « les hommes sont en moyenne plus fortes que les femmes » ne peut pas expliquer ce seul fait. Le problème est aussi culturel. Aujourd'hui, les violences sont inacceptables et elles devraient être combattues partout, notamment sur les cas de violences faites aux femmes. Et même si certains trouvent les féministes trop radicales aujourd'hui, eh bien moi j'espère qu'elles continueront au moins ce combat, car c'est ainsi que pour moi, nous pourrons continuer à dire « vive la politique ».
Merci Ronan pour ton analyse. Tout au long de l'histoire, les femmes ont été perçues comme le sexe
féminin, puis la fameuse...
Oui, alors oui, pas masculin, oui.
Le sexe faible. Je dirais, elles ont la fameuse intuition féminine.
Le sexe faible.
Sexe faible. Ah, oui. Ou quoi, ça dépend lesquelles, parce qu'il y en a certains, elles ont pas la langue dans leur poche. Hein. Oh là là. regarde par exemple Laurence
Boccolini. J'aime bien l'allusion,
Non, mais regarde, non. Par exemple, Laurence Boccolini, tu es le maillot faible, sur TF1, quand elle fait des présentations, elle rigole pas.
Oui,
après,
c'est sûr.
Après, je ne sais pas comment elle est dans la vie privée, mais un certain, elle rigole pas. Oh, elles ont un certain charisme.
Mais la réalité est évidemment tout autre. Hein. Les femmes sont capables de choses extraordinaires, et on le voit notamment dans les records. Prenez par exemple Johanna Kass, cette athlète est récompensée par le Guinness World Records, comme dirait notre cher...
Oh bah, tu dis très bien mon cher Didier.
Qui c'est qui fait la chronique record?
Vincent notre... Oui, c'est ça.
Non, Vincent, c'est la littérature.
Record, c'était... comment il s'appelle? Roll.
Roland.
Annabelle, tu disais, non?
Annabelle, oh là là, Annabelle, la discrète, beaux yeux.
C'est pas Annabelle, hein.
Oui, c'est vrai, la jolie Annabelle qui a vraiment des très beaux yeux.
Pourquoi Johanna Kass a été récompensée par le Guinness World Records en 2012?
Bah, sans doute, elle a dû faire un record, elle n'a pas passé inaperçue.
Oui, mais lequel?
Ah, une question.
Mm-hmm. Elle est gymnaste.
Mm-hmm. Donc, sportive.
Il y a un point commun avec ma grand-mère.
Ah, fait de la gymnastique peut-être, comme je sais que ta grand-mère a encore une souplesse, un esprit
oui,
jeune.
Oui, elles ont le même âge.
Ah, oui. Eh ben, comme quoi.
96 ans.
Eh ouais.
Donc Johanna Kass continue d'exceller dans son milieu et elle n'est pas la seule femme à battre des records. Anaëlle va nous faire découvrir d'autres exploits. Retrouvez les records du monde avec Anaëlle.
Moi, ce que j'adore, ce sont les records, donc je vais vous en partager quelques-uns.
Je peux vous dire, elle a un record de beauté. Elle assure tout le temps. Forever, pour toujours. Elle carbure. Oh là là, faut bien l'écouter. Hein. Tous les sedoux.
La question des droits des femmes est internationale. C'est pourquoi, chaque année, des marches sont organisées à travers le monde pour sensibiliser à ce sujet. Mais il y en a une qui a particulièrement marqué les esprits. Celle-ci a eu lieu au lendemain de l'inauguration de Donald Trump. En effet, l'ancien président américain est loin d'être un féministe. L'événement avait donc pour but d'envoyer un message fort, non seulement à l'administration de Trump, mais aussi au monde, selon lequel les droits des femmes sont des droits humains. Et on estime que plus de 4 millions de personnes à travers le monde ont participé au rassemblement. C'est la plus grande marche pour les droits des femmes jamais réalisée. Et il y avait des rassemblements absolument partout, même en Antarctique. Et d'ailleurs, en parlant de ce continent, il y en a une qui le connaît très bien, Stéphanie Guiquel. Cette aventurière de l'extrême a traversé l'Antarctique sans assistance en 2016. Pendant 74 jours, la skieuse de fond a parcouru plus de 2000 km par moins 50 degrés. Stéphanie Guiquel a souhaité se confronter à la puissance de la nature. Elle a par ailleurs récolté plus de 10 000 euros pour l'association caritative des Petits Princes. Et cette épopée est d'autant plus impressionnante quand on sait que l'exploratrice s'était cassée l'épaule quelques mois seulement avant son départ. Elle a fait preuve de beaucoup de courage et de résilience, tout comme Wally Funk. Cette américaine est une figure pionnière de l'aviation et pourtant, comme beaucoup d'autres femmes, elle a eu du mal à se faire une place dans le monde. En 1960, par exemple, la pilote rejoint un programme destiné à former des astronautes femmes. Wally Funk, qui est alors la plus jeune du groupe, bat tous les records, même masculins. Elle reste plus de 10 heures dans un bac d'eau sans rien voir, entendre ou sentir. Elle se qualifie même pour aller dans l'espace. Malheureusement, le gouvernement dissout le programme avant qu'elle puisse s'y rendre. Et des années plus tard, la NASA commence enfin à embaucher des femmes. Wally Funk continue de tenter sa chance, sans succès. Au moment où il est possible pour elle de devenir pilote de navette spatiale, elle est déjà trop âgée. Il faudra donc attendre 2021 pour que Wally Funk puisse prendre sa revanche et réaliser son premier vol spatial. Jeff Bezos l'invite à bord de sa fusée Blue Origin. Ainsi, Wally Funk est aujourd'hui la personne la plus âgée à avoir été dans l'espace à 82 ans. Son parcours démontre que les femmes n'ont pas les mêmes opportunités que les hommes, même si évidemment les temps changent. C'est pourquoi une journée comme le 8 mars est importante, elle nous rappelle le chemin parcouru et celui qui nous reste encore à parcourir.
Merci Anaël pour ces records. 2/3 des analphabètes dans le monde sont des femmes. 29 millions de jeunes filles et d'adolescentes n'ont pas accès à l'éducation en Afrique subsaharienne. Une jeune fille originaire du sous-continent indien se bat pour le droit des jeunes filles à l'éducation. William nous en dresse son portrait.
Pour ce coup de cœur d'aujourd'hui, il s'agit d'une jeune fille originaire du Pakistan qui s'est battue pour le droit des jeunes filles d'aller à l'école. Son nom est Malala Yousafzai. Elle est née en 1997 et possède deux frères. Son père est poète et militant pour l'éducation. Ce dernier est aussi gérant d'une école de filles se trouvant à quelques kilomètres de la frontière avec l'Afghanistan. Malala s'est fait connaître pour la première fois en 2009 avec un blog intitulé « Journal d'une écolière pakistanaise » diffusé sur le site de la BBC en ourdou. Alors, pour info, l'ourdou, c'est la langue officielle du Pakistan. Par exemple, la langue de l'Inde, c'est le hindi, et au Pakistan, c'est l'ourdou. Et ce n'est pas le pakistanais comme beaucoup de gens le supposent. Bref, pour son blog, son père l'avait encouragé à témoigner. Sous le pseudonyme de Gul Makai, elle évoquait sa vie, sa vision de l'éducation et les violences commises par les talibans pakistanais. En effet, peu après que ces fondamentalistes religieux aient pris le contrôle de la vallée de Souat, au nord-ouest du pays, en 2007, plusieurs écoles pour filles étaient incendiées. À ce moment-là, sa famille a fui la région et y retourna 2 ans plus tard, en 2009, suite à la reprise en main de la vallée par l'armée pakistanaise. Dans une vidéo, elle était en larmes en déclarant qu'elle voudrait devenir médecin. En 2012, alors qu'elle n'avait que 15 ans, Malala a été victime d'une tentative d'assassinat par des talibans lorsqu'elle se trouvait dans un bus scolaire. La jeune fille a été grièvement blessée au niveau du crâne et du cou. Après avoir été soignée dans des hôpitaux pakistanais, elle a finalement été transférée à l'hôpital de Birmingham, au Royaume-Uni, pour un long processus de guérison avant d'effectuer une rééducation à son domicile. C'est à ce moment qu'elle commença à se faire connaître partout dans le monde et elle a été reçue par la reine Elizabeth II et l'ancien président américain Barack Obama. Elle a aussi reçu le soutien de stars internationaux comme celui d'Angelina Jolie et l'ancien premier ministre britannique Gordon Brown. Concernant les auteurs de l'attaque à son encontre, 4 suspects ont été arrêtés et le commanditaire, un chef taliban, a pu être identifié et pris la fuite vers l'Afghanistan. En guise de récompense pour ses actions militantes, la jeune Malala a reçu de nombreux prix et c'est en 2014, à l'âge de 17 ans, qu'elle obtient le prix Nobel de la paix en tandem avec le militant indien des droits de l'enfant, Kailash Satyarthi. Elle fut la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix dans l'histoire. au Pakistan, elle est considérée comme une héroïne et son école porte désormais son nom. Son vécu peut sans doute nous rappeler la situation actuelle du pays voisin du Pakistan, l'Afghanistan, qui, depuis le retour au pouvoir des talibans, il y a près de 2 ans, empêche les filles d'aller à l'école et les étudiantes d'aller à l'université. Pour conclure, Malala Yousafzai est un symbole d'espoir et de détermination pour les jeunes filles ainsi que les femmes vivant dans des sociétés très patriarcales. Sa devise est « On peut lutter contre la guerre par le dialogue, la paix et l'éducation ». À l'heure actuelle, elle a 25 ans et est sortie diplômée de l'université d'Oxford. D'ici là, à la prochaine pour un nouveau coup de cœur et je rends le micro.
Merci William pour ton portrait. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a intégré un index de l'égalité entre les hommes et les femmes pour passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultat en matière d'égalité salariale entre les hommes et les femmes. En France, le taux d'activité des femmes reste inférieur à celui des hommes, notamment pour les 25-49 ans, près de 9 points d'écart avec les hommes. Les hommes sont surreprésentés parmi les ouvriers et les cadres, les femmes parmi les employés. Les femmes sont aussi peu présentes dans l'informatique. Seulement près de 15% des postes dans ce secteur sont occupés par des femmes. Comment expliquer la faible présence des femmes dans le milieu de la tech ? William va nous l'expliquer en détail. William est connecté jusqu'au bout des doigts.
Ce soir, dans ma chronique high-tech, je vais vous présenter différentes applications pour tenir ces bonnes résolutions.
Appli, objet connecté, retrouvez la sélection de William.
Oh, mais qu'est-ce qu'on fait pas de nos jours ?
Concernant le secteur de l'informatique, il est dominé par les hommes à environ 80%. Les raisons du désintérêt des femmes pour ce milieu sont diverses, dont notamment les stéréotypes de genre qui sont ancrés dès notre enfance. En effet, on nous éduque au fait que les garçons seront amenés à effectuer des métiers manuels et les filles à être caissières ou bien infirmières. C'est aussi lié au cliché dont celui du jeune homme geek et intello, ainsi qu'au comportement sexiste. Afin de mesurer la présence de la gente féminine dans l'informatique, 17% d'entre elles sont développeuses, mais bien d'autres sont ingénieurs ou encore techniciennes. Pour vous raconter une anecdote personnelle, il n'y avait que 3 filles dans ma classe de PTS informatique, et j'ai l'une de mes sœurs qui est technicienne, où elle doit escalader les 10 quais d'incident vers le service approprié. Donc il faut savoir que dans le support informatique, il y a 3 niveaux. Il y a le support N1, N2 et N3. Par exemple, moi je fais, moi qui est technicien informatique, moi je m'occupe de la partie N1. Si par exemple, il y a un problème informatique qui n'a pas pu être traité par le support N1, c'est escalade vers le support N2. En comparaison avec le métier d'infirmière, ou bien ceux de l'aide à la personne, comme par exemple AESH, les femmes peuvent tout aussi rendre service aux autres en traitant un problème sur un ordinateur ou en corrigeant un bug présent sur une application. Quant au salaire, les inégalités salariales sont bien présentes dans l'informatique, car dans ce secteur, les femmes gagnent 16% de moins que les hommes, alors que leurs profils sont très sollicités. Pour pallier ces inégalités, la première ministre Elisabeth Borne a récemment annoncé le projet d'un programme d'accompagnement pour 10 000 jeunes filles afin de les former au métier de la tech et ce, dans le cadre de son plan Égalité hommes-femmes. En conclusion, le monde de l'informatique peut être une source d'inspiration et d'émancipation pour toutes les femmes. C'est tout pour moi, honneur à la gente féminine et je rends le micro.
Merci William. Malgré de nombreux progrès, les femmes sont encore sous-représentées dans la musique populaire aussi. Selon une étude de l'Université de Californie du Sud, entre 2012 et 2019, la musique populaire a compté moins de 23% de femmes et moins de 2% de productrices.
C'est un certain nombre quand même.
Ah bah 2%, c'est pas beaucoup. Hein.
Mais non, c'est vrai qu'il pourrait en avoir plus, mais enfin.
De plus, les femmes ne représentent que 12,6% des auteurs-compositeurs, mais heureusement, beaucoup de femmes sont récompensées dans les cérémonies musicales prestigieuses, comme les Victoires de la Musique, les Energy Music Awards ou encore les Grammy Awards.
Oui, c'est ce que je pensais, il y a des nouveaux artistes qu'on découvre à chaque fois, et ça, c'est une bonne chose, ça fait grand plaisir, quoi.
Et c'est l'occasion de leur rendre hommage en chanson grâce au quiz de Kevin.
Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz. Attends. Comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu. Je vais me planter sur un truc.
Mais
Et c'est parti pour le quiz musical de Kevin, hein, qui n'est pas là.
Eh oui.
C'est moi qui m'y colle.
Eh ben, on te salue amicalement. Good luck, mon cher Didier.
Il nous invite à deviner quelles sont les chanteuses qui passent à l'antenne. Elles ont un point commun, c'est qu'elles ont toutes été récompensées. Notamment la première. De qui s'agit-il à votre avis ? Manu.
Oui, elle aime bien danser, elle doit avoir la pêche. Elle est anglaise et c'est...
Non.
Non.
C'est pas un C, c'est un
non,
B.
Non. Je dis, c'est, je cherche le prénom, quoi.
Elle est pas anglaise, hein.
Elle est pas anglaise ?
Non plus.
Ou peut-être américaine, je sais pas.
Oui.
Ou sans doute américaine.
C'est une chanteuse américaine. Il s'agit de... Ça commence par un B.
Beyoncé.
Oui.
Beyoncé. Oui. Et très jolie, d'ailleurs. Oh là là.
Avec ce titre.
Je préfère que tu le dises.
Bon, là,
que
tu connais pas du tout.
Je préfère rien dire.
Déjà, non, t'as eu mal. T'as eu du mal. Alors, c'est le titre Single Ladies, extrait de son album I Am Sasha Fierce.
D'accord.
Savez-vous que Beyoncé est devenue, le 5 février dernier, la chanteuse la plus couronnée aux Grammy Awards aux États-Unis ?
Et puis, on peut dire qu'elle n'a pas froid aux yeux. Hein. Oh là là, elle ose. Hein. La conviction, elle met le.
Elle a reçu 4 trophées, celui de la meilleure chanson R&B, celui du meilleur enregistrement dance, celui du meilleur album électronique et celui de la meilleure prestation vocale R&B.
Eh ben...
Ce qui fait d'elle la chanteuse la plus récompensée aux Grammy Awards avec 32 récompenses.
Eh ben c'est une bonne chose, au moins elle a une récompense, et y a une... c'est bien, elle peut avancer. Et...
Ah ben c'est énorme, hein.
Impressionnant.
Colossal, ah oui, ça, hein. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien avoir son parcours, je suppose.
Elle se situe à 2 rangs d'une autre artiste malheureusement décédée. Qui est-elle à votre avis ? Très facile aussi.
C'est pas... elle était brune ! comment elle s'appelle ? Elle est décédée d'une overdose.
C'est... Tu l'avais sur le bout de la langue.
Oui, comment ça s'appelle, une
brune ? Non, tu penses à Whitney Houston, là, je crois.
Non, Whitney Houston, c'est sa fille qui rechante. Mais une brune, je me rappelle, j'ai le nom sur le bout de la langue.
Alors, c'est une chanteuse américaine qui nous a malheureusement quittés en août 2018.
Ah, c'est américain. Aretha Franklin. Non, je pensais pas à elle, mais je pensais à une autre brune, malheureusement, qui chantait. C'est mort.
Aretha Franklin. Avec ce titre.
Oh, dis-le, je connais, mais je préfère que tu le prononces parce que si je le dis, moi, ça va.
Respect.
Voilà. Et on peut dire, c'est grandiose, un titre très connu, quoi.
Chanson de quelle année, petit Manu ?
Oh bah.
T'étais presque né.
En 70, peut-être à peu près.
Avant.
1967. Ah là là.
Wow.
Avant mai 68, comme quoi.
Et oui, Aretha Franklin est classée au 3e rang des artistes les plus récompensés aux Grammy Awards. Comme quoi, les familles aussi s'imposent dans la musique.
Ah ben, ils ont pas froid aux yeux. Hein.
On peut en dire autant aussi de cette chanteuse française. Elle est considérée comme l'une des artistes du moment. De qui s'agit-il ? Là, petit Manu, tu connais.
Celle dont j'ai l'air, souvent je chante.
Comment elle s'appelle ? Elle vient dans le sud. Elle a des cheveux longs. Ben Clara Luzzatelli, très jolie. Oh là là, très demandée. Hein. Elle est très demandée, j'imagine. Oh
Clara Luzzatelli avec ce titre. C'est comme toi le matin.
Je suis pas réveillée ou
non,
c'est quoi ? Je me prépare.
Nu.
Eh ben, elle a pas froid aux yeux. Oh là là. Puis elle est très jolie. Hein. Oh là 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 là. Elle habite dans le sud. Et ouais, elle vient de Marseille, par là, la région.
Chanson extraite de son premier album Sainte Victoire, sorti en 2018. Et depuis son premier album, Clara Luciani enchaîne les récompenses puisqu'elle a été récompensée 4 fois aux Victoires de la Musique, une fois en 2019, une fois en 2020 et 2 fois en 2022.
Et puis on peut dire qu'elle est très recherchée, fort sympathique. Elle a pas l'air d'avoir la grosse tête, mais elle met les bouchées doubles. Hein. Oh, puis elle ose, hein.
Allez, encore une chanteuse qui s'impose, tout comme cette star internationale que l'on ne présente plus, là, tout le monde connaît. Tout le monde.
Oh, si tu le dis.
C'est Didier. Petit Manu, on va même pas écouter son titre.
Oh bah.
Tu es une star internationale.
Tu peux deviner sans écouter, Petit Manu.
Oh bah, il y a. Oh bah, il y en a pas mal. Je préfère écouter, c'est plus
Canadienne.
Ah, oh bah, il y a Canadienne, Fabienne Thibault.
Ah bah, d'accord.
Sinon, il y a. Céline Dion qui a commencé.
On va écouter.
Ah bah, voilà. Bon, alors, on va écouter. Bah, elle a commencé jeune, c'est Céline Dion. I'm alive.
Qui c'est? Qui chante? Tu ne reconnais pas la sublime voix de...
Alors, non, attends, là, je vais peut-être découvrir, mais là, je...
Écoute bien.
Oui, oui. C'est Céline.
Ah bah oui.
Bah, c'est Céline Dion. Voilà. Bah, elle a, vous savez à quel âge elle a commencé à chanter?
12 ans.
Et bah 16 ans, en amour et
d'amour. Même un peu avant.
Il y avait aussi sa mère qui faisait de la cuisine aussi. Et elle était à l'école, je crois qu'elle était en pleine crise d'adolescence. Et c'est grâce à la chanson qu'elle s'est trouvée, quoi. En amour et d'amitié, une très belle chanson qui a commencé. Promis-tu, mais elle a commencé très jeune. C'est l'union aussi, oh là là.
Et bah là, ce titre, c'est.
Ah, par contre,
elle l'a dit. I'm alive, qui signifie.
Bah, j'aime.
Non, je suis en vie.
Je suis en vie. Ah ben. Parce que
oui, elle est toujours en vie, hein, malgré ses problèmes de santé.
Voilà, des petits problèmes de santé, mais en plus, je sais que ses enfants ont bien grandi et elle chante toujours, mais maintenant, on lui souhaite un beau rétablissement. C'est important en santé.
En tout cas, c'est l'artiste qui a reçu quasiment toutes les récompenses qui existent, hein, que ce soit les Grammy Awards, les Energy Music Awards, les World Music Awards, les American Music Awards, les Victoires de la Musique, bref, elle a tout raflé.
Et puis, on peut dire, Didier, elle a chanté à Vegas aussi.
Ouais. Elle a tout raflé, il y en a plus pour Petit Manu.
Ah non, mais attends, je me sens pas concerné. Mais il y en a qui vont chercher de l'argent, d'autres ils vont jouer à l'auto. Et ben elle a été à Vegas. Et ben Jean-Jacques Goldman l'a aidé. À un moment, l'a aidé. Voilà. Mais elle était à Vegas plusieurs fois, chanter. Vraiment un talent exceptionnel.
Et ben on écoute en entier Céline Dion.
Alive.
Oui.
Je suis en vie, et ben on espère, pendant longtemps, et on encourage. I get wings to fly. Oh, I'm alive.
Girls die.
Céline Dion, yo. I'm Alive dans Big Bang
Station.
Tiens, ce matin, j'ai rencontré un ancien chroniqueur, Kamel.
Kamel.
T'étais peut-être même pas là.
Ah bon ?
Il m'a dit, comment ça va Big Bang ? Alors j'ai dit, tu sais, maintenant ça s'appelle Big Bang Station. Il m'a dit, non, ça existe toujours.
Ah bon ?
J'ai dit, oui, c'est la 26e saison, il n'en revenait pas.
Faudrait que tu l'invites,
Il m'a dit, mais c'est incroyable, cette émission, elle existe toujours.
Et tu l'as surpris.
Il a commencé il y a très très longtemps, il est journaliste maintenant à l'équipe.
Ah bah, c'est un équipe.
Il devrait venir nous voir.
Eh ben, avec grand plaisir, tu vas être content, hein, comme quoi.
Je crois que tu l'as même pas connu.
Ah bah non, mais comme quoi, il y avait des gens avant moi, comme quoi. Eh ben, plus on est fou, mieux on rit, hein. On mélange les générations, mon cher Didier.
Il est plus jeune que toi.
Oh, mais quand je dis ça, c'est d'ordre général, on a bien compris.
Allez, on continue à parler artiste, mais cette fois avec une peintre. Ses œuvres traitent de la femme, de la féminité et de la difficulté à devenir femme. Wins Dollar nous présente Anna Joffaut.
Sculpteur, peintre, humoriste, acteur, chanteur, artiste en tout genre, Wins Dollar vous fait découvrir ses artistes en fonction du thème de l'émission.
C'est au nom des dindes galantes que je vous parlerai théâtre et que nous nous délecterons de caramel fou avec légèreté et cocasserie.
Wins Dollar.
Wins Dollar.
Non, Wins Dollar.
Wins Dollar.
Pas Dollar, Wins Dollar.
Wins Dollar.
C'est de plus en plus court.
Je sais pas comment.
Alors, ça veut dire là
Je sais pas.
Fille du vent.
Ah, la fille du vent. Oh oui, la fille du vent.
Et pas la fille au vent.
Non, non, bah non, parce que... elle va pas être contente, sinon elle va vouloir donner des... Je sais pas comment elle est, mais elle va pas être contente. Hein.
Anna Joffaut, née en 1986, découvre le dessin à l'âge de 10 ans et dès lors, l'art entre dans sa vie et la peinture aussi. Elle poursuit ses études et notamment des études d'art à l'ESSAG Penningen et sera diplômée de l'ECV de Paris comme conceptrice en communication visuelle. Anna, c'est avant tout l'expression d'une peinture humaniste où comme un photographe saisit des instants de vie, Anna explore ses origines multiethniques aussi entre l'art abstrait pour la série Silhouette notamment, traitant de la femme, de la féminité, de son rapport particulier au corps, de ses blessures et de la difficulté à devenir femme et de traverser toutes ces métamorphoses du corps au fil des âges et le figuratif avec la série Visage du Monde par exemple et ses portraits de femmes Rosa Iwasaki, Aisatu, symbole de la richesse de nos différences et de nos différentes cultures. De ses premières expositions en 2008 à la Galerie Rosier jusqu'au Salon d'Art International d'Art Contemporain Art Shopping au Carrousel du Louvre en 2023, c'est une artiste affirmant son talent et véhicule ses valeurs et ses réussites personnelles, ce qui parle à toutes les femmes grâce à ses pinceaux. Découvrez-la via son site internet www.annajoffaut.com et mieux encore, si vous êtes non loin de l'orangerie du parc du Prieuré à Conflans-Sainte-Honorine, Anna expose ses œuvres jusqu'au 9 mars et sera sur place les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 17h. Ne la manquez pas. Et pour suivre son actualité, rendez-vous sur Instagram et Facebook, Anna Joffaut. Soutenez vos artistes, vibrez de couleurs, le printemps arrive et à bientôt sur Big Bang Station.
Merci Wins Dollar pour ce portrait d'Anna Joffaut.
Et elle s'appelle Céline. Bisous Céline.
Et Joffaut, elle s'appelle Anna, ça te dit rien?
On connaît Anna qui est là.
Rien à voir avec le prénom, le nom de famille.
Joffaut, si. Il y a quelqu'un, une pièce de théâtre, un metteur en scène, Joffaut.
Sa mère était venue nous voir il y a au moins 15 ans.
C'est vrai. Et
sont peut-être. Salut.
On dit bonjour, buongiorno. Comme quoi, il y a un parenté dans l'esprit de la famille.
T'étais déjà là dans cette émission ou pas?
Oui, elle était déjà venue, je me rappelle très bien. Puis une dame, oh là là, c'est fermé.
Ganaël Joffaut.
Exactement, oh là là.
Tu étais venu nous voir
On est là, une grande famille, et on la salue, on espère qu'elle va bien. Oh là 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 là. Non, je me rappelle. Très élégante, sympathique.
Et on continue cette page culture avec du cinéma. Renan va nous parler des suffragettes.
Eh ben, on va découvrir.
Tu sais ce que c'est?
Ça doit être quelque part avec le suffrage, je suppose.
Bah, tu vas écouter la chronique de Renan, la chronique cinéma.
Un petit ciné?
Vous voulez un whisky?
Ou juste un doigt?
Vous voulez pas un whisky d'abord?
Renan squatte les salles obscures pour vous.
Y'a un monsieur très mal poli qui a téléphoné, il voulait enculer Thérèse.
Oui, mais c'est un ami.
Ah bah, ça va alors.
Comme vous, vous êtes peut-être déjà posé la question, je vous regarde. Là, on a une vision du cinéma qui est très masculine. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la publicité ou les distributeurs qui mettent surtout en avant des films réalisés par des hommes? Bon, je dois bien dire que ça me surprend.
Un peu des deux.
Qu'à moitié, ouais, voilà. Ouais. Un peu des deux.
Même dans les publicités aussi, j'ai remarqué, hein, notamment les jouets pour enfants.
Bah ouais, bien sûr.
Beaucoup. Puis,
ouais, c'est surtout des femmes qui sont mises en scène, mais c'est surtout des hommes qui réalisent, ouais, je pense, des publicités.
Ouais. Ouais.
Ça m'étonne qu'à moitié. Et je pensais que le cinéma était un peu épargné parce qu'il y a beaucoup d'actrices, mais du coup, les réalisateurs, c'est surtout des hommes. Mmh. Bref, après cette analyse féministe un peu 36-15 My Life, je m'excuse, on fait l'autocritique de l'émission. On va directement parler du premier film, Les Suffragettes, réalisé par Sarah Gabron, sorti en 2015. C'est une œuvre britannique qui nous raconte la période historique avant la Première Guerre mondiale et le combat des suffragettes, des femmes qui sont rentrées dans la désobéissance civile, l'action violente pour obtenir le même droit de vote que les hommes. C'est une belle cause. Dans ce film, on va suivre l'histoire d'une blanchisseuse, Maud Watts, interprétée par Carey Mulligan, une employée d'usine sans histoire, mariée, mère de deux enfants. Et puis un peu par hasard, elle assiste à un discours d'une députée qui cherche à investir des femmes de la mission de parler au ministre des Finances pour faire avancer le droit de vote des femmes. Elle ne veut qu'assister au témoignage d'une amie, mais finalement, elle y participe. Mais la police secrète britannique a dans son collimateur les femmes qui l'accompagnent, car à cette époque, les femmes qui demandaient et manifestaient pour le droit de vote sont presque considérées comme des terroristes. Puis elle va s'engager dans son combat, plus sa vie familiale va en être affectée. Une vraie tragédie pour une noble lutte. Alors que penser de ce film qui, je vois autour de la table, ne galvanise pas les foules, mais c'est pas grave, on en parle quand même. Eh bien, malgré le fait que nous ayons affaire à un film historique, moi j'aime bien les films historiques, comme beaucoup autour de cette table, je suppose.
Oui, moi, j'adore, moi.
Exactement.
Il y en a de très beaux, en tout cas.
Il y en a toujours des très beaux, les reconstitutions, on adore tous.
Ouais.
Sur une période que nous connaissons mal et une lune que nous connaissons pas forcément très bien, les suffragettes, je pense qu'il inspirait une grande espérance. Et ben moi j'aime bien les films sur des histoires que je connais pas. Le résultat final est propre mais un peu décevant. Tout d'abord, la reconstitution historique, comme je vous disais, de Londres, l'époque victorienne du début du XXe siècle, est très bien faite. Les actrices sont très bonnes. Je mettrai d'ailleurs une mention spéciale à une actrice que j'aime beaucoup, que vous connaissez sûrement, qui joue un second rôle dans ce film, Helena Onman Carter, qui est pour beaucoup la tueuse Bellatrix Lestrange dans Harry Potter, que vous avez sûrement vu, donc qui est une, je ne sais plus comment on appelle les serviteurs de Voldemort. C'est la fille qui torture les gens et qui les bute. Non, il n'y a pas de fan d'Harry Potter ici. Bon, c'est pas grave. Mais qui est surtout pour moi, Marla Singer. Putain, je fais. Je suis
tout seul
là, aujourd'hui.
T'es tout seul.
Je suis tout seul dans mon délire sur Harry Potter. Mais qui est surtout pour moi, cette actrice, Marla Singer, dans Fight Club. Et là, je regarde peut-être Philippe ou.
Fight Club, si.
Fight Club, c'est comme Marla Singer quand même, merci.
Avec Brad Pitt et.
Edward Norton,
voilà, merci.
Alors, dans ce film, Les Suffragettes, il y a certains plans qui sont très signifiants, très jolis. On ressent vraiment la pauvreté et la misère de ces femmes. Mais j'ai un peu l'impression que le film veut traiter de trop de choses à la fois. Ou alors, il est parti d'une histoire trop simple pour traiter un sujet historique marquant. En effet, les deux premiers tiers du film se tiennent dans le principe. Plus Maud Watson, donc la héroïne, va s'investir dans la lutte pour le droit des femmes, plus sa vie personnelle va s'empirer pour finalement tout perdre à la fin. Malheureusement, ce fil narratif va un peu se perdre vers le dernier tiers du film quand il faut conclure sur l'importance de cette période. Un film propre donc, un peu décevant sur ce sujet. Mais bon, si jamais vous n'avez jamais entendu parler des suffragettes, ça ne fait jamais de mal de voir un film et de s'informer en même temps. C'est toujours très intéressant de voir des films historiques. Je voulais vous parler de trois courts-métrages réalisés par Jonah Bedeau que vous pouvez retrouver sur le site 1001 Héroïnes, notamment de ces courts-métrages réalisés en mission avec la MIPROF, la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des humains. Merci à l'administration de faire toujours des trucs chez Clash et qui parlent
très,
à tout
très
le monde.
Très très long et très... ouais.
Voilà, qui ralentit ma chronique.
Quoi.
Donc le court-métrage Élise, qui est plus un monologue d'une femme qui raconte un viol dont elle ne se souvenait presque plus, qui lui était arrivé dans sa petite enfance. Ce court-métrage est surtout le monologue de son actrice.
Le monologue.
Oui, tu me corriges comme petit Manu.
Petit Manu sort de ce corps.
C'est surtout le monologue de Laure Calamy, qui joue la secrétaire un peu brute de décoffrage dans l'excellente série 10%.
Ah, voilà. Dominique Besnéar.
Exactement. Et qui est une actrice que j'adore détester, car elle incarne à merveille les rôles dans lesquels j'ai pu la voir et elle ne laisse jamais indifférente. Sur ce, je vous laisse, car je vais rattraper mon retard sur les films qui parlent des femmes. Et donc, vive le cinéma fait par les femmes.
Merci Ronan pour la redécouverte de ce film, ou la découverte pour petit Manu, parce que tu ne le connaissais
ah
pas.
Bah, vous. Je reconnais, mais et comme quoi ton émission, on apprend. Hein, c'est le jeu vaut la chandelle. 7 ans jusqu'à 77 ans, il n'y a pas d'âge. Même avant ou après, on est tous à la même enseigne. Tu peux être très fier de toi, Didier. Hein. Très bonne invention. Oh là là.
Et on termine cette page culture avec de la littérature. Hein. Au XVIIIe siècle, la femme dépend encore de son mari. À de rares exceptions, elle ne peut choisir sa vie. Dans Émile ou l'éducation, Rousseau parle des limites de l'éducation des femmes afin qu'elles restent à leur place, qui est la leur, celle d'épouse et de mère. Bravo.
Oh bah déjà, même à cette époque-là, elles rigolaient pas beaucoup. Hein.
Bah c'est... Non, les femmes, elles ne pouvaient pas trop rigoler beaucoup.
Bah non, non.
Et lorsque les femmes sont présentes dans la littérature, en tant que personnages, elles incarnent la plupart du temps un stéréotype, la mère, l'innocente, mais rarement la chef, et elles auront souvent besoin que le héros vienne à son secours, comme Denise Baudu, ou les tribulations parisiennes d'une adolescente devenue femme par Émile Zola, racontée par Vincent.
De la culture dans Big Bang.
C'est cela, oui, oui, oui.
Big Bangienne, Big Bangien, cher auditeur, mon seul bien. Le jeu vidéo est le sujet du jour, mais la culture, elle, vivra toujours.
Ah, c'est pas mal, quoi.
Ah. Et oui, Didier, chers collègues, Big Bangienne, Big Bangien, cher auditeur, mon seul bien. En effet, nous allons parler d'Émile Zola et de l'opus de sa gigantesque série des Rougon-Macquart, Au bonheur des dames. Et plus particulièrement, de l'héroïne de cette œuvre, Denise Baudu. 20 ans. Alors en quoi le thème du jour rejoint-il le récit des malheurs de cette jeune orpheline débarquée de province dans la capitale avec ses deux frères devenus, par pitié filiale, ses propres enfants? Car, si Émile Zola n'est évidemment pas un auteur féministe, Au bonheur des dames, de par le monde et les souffrances dont il rend méticuleusement compte, inventorie les injustices et sévices endurés encore aujourd'hui par tant de jeunes femmes à travers le monde, y compris dans notre pays. Partons du plus évident. Denise, ayant perdu coup sur coup sa mère et son père, se retrouve responsable de ses deux frères et, le salaire de la maison Cornaille étant insuffisant, quitte Valognes pour Paris. Jean, 16 ans, entre en apprentissage, mais coureur de jupons invétéré, il grèvera, pour les beaux yeux de ses maîtresses, le maigre budget familial. Pépé est un jeune garçon, tendre et fragile, placé en nourrice, aux bons soins de Madame Gras. L'oncle et la tante Baudu, incarnation parmi tant d'autres de la déperdition du petit commerce face au grand magasin, n'ayant pas les moyens de l'employer, Denise se retrouve à postuler avec fascination et appréhension comme vendeuse chez l'ennemi de sa famille, le grand magasin Au bonheur des dames. C'est bien ce qu'on appelle aujourd'hui une terrible charge mentale de chaque jour. Comment nourrir sa famille ? Tout en culpabilisant que Jean et Pépé vivent chez des étrangers, eux qui n'avaient jamais quitté ses jupes. C'était un arrachement, et les deux grosses larmes qu'elle retenait faisaient danser la rue dans un brouillard. La suite de ses aventures ne sera malheureusement qu'une suite de mépris. Le premier auquel elle fait face vient de ses collègues féminines. Voici la scène d'embauche de Denise. Ces demoiselles avaient flairé la vendeuse qui venait se présenter, et elle a dévisagé. Elle a déshabillé du coin de l'œil sans bienveillance, avec la sourde hostilité des gens à table qui n'aiment pas se serrer pour faire place aux fins du dehors. La pauvreté de sa mise sera toujours le sujet du dédain parisien de ses collègues et bourgeois des clientes. Le second mépris est physique, Denise ne correspondant pas à la beauté exigée. Elle paraissait bien chétive et elle avait le visage triste. Sans exiger des filles belles, on les voulait agréables pour la vente. Ses supérieurs l'étudiaient et la pesaient comme une jument que des paysans marchandent à la foire. N'oublions pas avant tout que le Second Empire est le temps du capitalisme florissant et dérégulé, sans protection sociale. Ainsi, Denise est écrasée par un système de compétition généralisée entre les vendeurs. Leur salaire fixe est dérisoire, voire inexistant pour les nouveaux. Leur rémunération se fait donc par un pourcentage sur les ventes qu'ils réussissent. Denise, inexpérimentée dans le magasin, vendra aussi peu qu'elle gagnera d'argent. Enfin, si les violences affectant les femmes ont été mises en lumière par le mouvement MeToo, Denise en est elle aussi la victime, avec un abus de pouvoir. Responsable de la surveillance des employés, un homme lui proposera son soutien contre des faveurs. La prude honnêteté de Denise lui coûtera une première fois sa place. Vois-tu, cher auditeur, les violences envers les jeunes femmes n'ont guère changé entre ces années 1860 et notre glorieuse modernité. Alors visons entre nous une paix harmonieuse. Prends bien soin de toi, mon ami, et je te dis à très vite.
Merci Vincent. Et cette émission spéciale Journée internationale des droits des femmes en partenariat avec journeemondiale.fr, c'est déjà fini.
Oh, bon, c'est clair, vous les filles et les demoiselles, on vous met bien en valeur. Hein. L'équipe du dîner, on ne vous laisse pas tomber. On fait preuve de belle fidélité.
Si vous avez loupé le début de l'émission ou si vous voulez la réécouter, l'émission est rediffusée sur de nombreuses radios. Hein, vous retrouverez la liste sur notre site internet bigbangstation.fr.
Exactement.
On se quitte avec un proverbe de Kevin. Simone de Beauvoir a dit « Une femme libre est exactement le contraire d'une femme légère ». Salut à toutes et à tous, on se retrouve la semaine prochaine sur IDFM, le mercredi à 21h pour un nouveau thème.
Eh oui.
Qui est ?
Alors là, ça sera sur la discrimination raciale.
La journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale.
Alors ça sera pas, ça sera sérieux, mais on sera là et on compte vous en parler de A à Z.
Salut à toutes et à tous.
Très bonne semaine. À la semaine prochaine. Et tâchez de lui en profiter.
Ok, let's stop. Comment tu préfères?